Chateaubriand, par Émile Faguet, chapitre 1er, sa vie. François-René de Chateaubriand, d'une très ancienne famille bretonne, naquit à Saint-Malo, dans une maison des remparts donnant sur la mer, au bruit des vagues, comme il aime à dire, le 4 septembre 1768. Élevé durement par une mère qui paraît avoir été assez niaise, et un père qui semble avoir été féroce, il n'aima point ses parents, ce qui est un trait essentiel pour bien comprendre son caractère. Il n'eut pour affection d'enfance qu'une de ses sœurs, Lucille, enfant frêle, exaltée et inquiète, qui devait mourir jeune, dans un état mental voisin de l'égarement. Il passa ses premières années à jouer avec le sable et le flot, de Dinard à Saint-Servan et de Saint-Malo à Paramé, au sein du paysage maritime le plus grand et le plus beau qui soit en France, à courir sur les grèves, à tomber à l'eau, à se battre à coups de galets avec les mousses. Puis ce fut le collège, des études vides, et du reste peu suivies, à Saint-Malo, à Dole, à Dinan. Puis le château paternel, Combourg, nid de vautours au milieu des bois, les journées vagues, les soirées mornes entre deux vieillards silencieux et une sœur paralysée de terreur, les nuits solitaires dans une sorte d'échauguette au plus haut d'une tour. Peu de lecture, un tempérament violent, une constitution robuste, des courses et des chasses enragées, la solitude toujours, et toujours aussi, près de la mer et parmi les bois, des paysages d'une grandeur triste, d'une mélancolie puissante et sauvage, Saint-Malo, Dinan ou Combourg, la Bretagne âpre et mystérieuse, le ciel voilé, l'air vaporeux, et le rêve vague de l'adolescence solitaire s'enfuyant sur l'ondulation des lames grises ou sur la cime indéterminée des forêts. Cependant, il avait 20 ans, ne savait presque rien, était timide et ardent, désespéré du vide de sa vie, et aussi près que possible, si nous l'en croyons, d'y mettre fin. Il désirait vaguement être marin. Une tentative dans ce sens échoua, et il ne reste qu'une belle description de Brest. On lui obtint une sous-lieutenance au régiment de Navarre. Le voilà à Paris. C'était à peu près chaque tasse à l'opéra, et ce sont bien ses premières impressions de sauvage à Paris que nous retrouvons dans les Natchez. Excessive en tous les sens, il embrassa l'extrême civilisation de la même ardeur qu'il avait embrassé la solitude. Le monde littéraire l'attirait. Il connut Parny, les Chéniers, l'Harpe, Chamfort et Fontane, de qui c'est l'éternel honneur de l'avoir deviné dès le premier jour, toujours soutenu et toujours aimé. En 1790, car on ne choisit pas son moment, il débutait dans l'Almanach des Muses. Mais surtout, il faisait ses études. Très ignorant à 20 ans, nous le retrouverons à 25, muni d'une érudition informe, mais extraordinaire. Il lisait les historiens anciens, dont nous rencontrerons les traces multipliées dans l'essai sur les révolutions. Il étudiait Montesquieu, qui lui a toujours imposé, Rousseau, dont il détestait les idées et dont il adorait le tour d'imagination, Bernardin de Saint-Pierre, qui pour lui est un sot doué d'un style merveilleux, deux hommes enfin dans lesquels, d'instinct, il reconnaissait ses pairs et dont il a toujours été jaloux, mettant son génie à rivaliser avec l'un et à ruiner l'autre, Bossuet et Voltaire. Mais on était en 1791. Personnellement, à cette date, Chateaubriand ne détestait pas la Révolution, mais son régiment n'existait plus. La littérature traversait de mauvais jours et sa famille, noble et réactionnaire, était inquiétée. Il eut l'idée, ou l'idée lui revint, d'un voyage en Amérique, sous prétexte de trouver le passage aux Indes par le nord. Il partit, vit les États-Unis, salua Washington, parcourut le Labrador, la région des lacs, les prairies du centre, la Louisiane, la Floride, plus peut-être et peut-être moins, car on le soupçonne d'en avoir décrit un peu plus qu'il n'en a vu. La nouvelle de la mort de Louis XVI changea la direction de sa vie, comme plus tard la nouvelle du meurtre du duc d'Enghien. Il revient en Europe, prend du service dans l'armée des émigrés et de l'expédition contre Thionville. Malade et blessé, il est laissé pour mort au coin d'un bois. Sauvé presque par miracle, très faible, sans ressources, il réussit à passer en Angleterre. Il y souffrit d'une misère affreuse, connut le besoin, le froid, le désespoir et même l'aumône. Resta jusqu'à 5 jours sans manger. Il travaillait avec fureur. Doué d'une puissance de labeur incroyable, pouvant écrire 12 heures de suite, gagnant son pain pendant le jour avec des travaux de traduction pour les libraires, passant les nuits à son essai sur les révolutions, quelquefois repris par le démon du rêve, et allant chercher hors de Londres un ravin ou une garenne solitaire, c'est là qu'il fit l'apprentissage de la vraie douleur. Aussi était-il courageux, et c'est alors qu'il aima la vie. Il voyait son meilleur ami se frapper, et ce n'est pas ce jour-là qu'il songea au suicide. On lui trouva une place de secrétaire en province. Il y resta quelque temps, puis revint à Londres, un peu moins dénué, et lança son essai sur les révolutions en 1797. La mort de sa mère et de l'une de ses sœurs, plus encore à notre avis le progrès naturel de ses idées, le ramenèrent à des sentiments religieux. Il commença à préparer le génie du christianisme, dont il parle à Fontane dans sa correspondance. En 1800, il put, par tolérance, rentrer en France. Fontane l'encouragea et le produisit. Il fit un article, au Mercure, sur Madame de Staël, qui fut remarqué. Pressé de suivre sa renommée, il détacha du manuscrit du génie du christianisme l'épisode d'Atala, qui formait un petit roman, et le publia. Le succès fut immense, Chateaubriand était célèbre. Nous sommes en 1801. Redoublant de travail pour répondre à l'attente du public, il fit paraître le génie du christianisme en 1802. Il l'a remarqué lui-même, aucun ouvrage n'arriva mieux à son moment. L'air du jour était encore à l'irréligion, mais la réaction religieuse était dans les esprits et le gouvernement y était favorable. Ce fut le seul moment de sa vie où Chateaubriand fut à la fois populaire et bien en cours. Le premier consul l'envoya à Rome comme premier secrétaire d'ambassade. Il y resta 2 ans. En 1804, se trouvant à Paris, au moment de partir pour la Suisse comme chargé d'affaires, il entendit crier dans la rue la nouvelle de l'exécution du duc d'Enghien. Il rentra chez lui et envoya sa démission. En 1807, il publia René, qui était primitivement, comme Atala, un épisode du génie du christianisme, et qui eut un succès plus grand que tous ses ouvrages. Puis ce fut Les Martyrs, en 1809, et L'itinéraire de Paris à Jérusalem, en 1811. Cette même année, il fut nommé de l'Académie française. Son discours de réception contenait des allusions sanglantes contre l'empereur. Défense lui fut faite de le prononcer. En 1814, il salua le retour en France des Bourbons par la fameuse brochure de Bonaparte et des Bourbons. Fut à Gand pendant les 100 jours, rentra en France avec Louis XVIII, fut compté au nombre des partisans résolus du nouveau régime et versa tout entier dans la politique. Tantôt dans les rangs de l'opposition dynastique, tantôt ministériel, toujours royaliste, il collabora à divers journaux et donna un nombre considérable d'écrits politiques, qu'on trouve dans ses œuvres sous les titres de « Polémique, opinion et discours »,« Mélange, fragments ». Il fut ambassadeur à Berlin et à Londres, ministre des Affaires étrangères en 1823 et fit décider la guerre d'Espagne en 1824. Écarté du ministère, où ses collègues lui faisaient de l'opposition, il rentre dans la presse indépendante jusqu'en 1828. À cette époque, il eut l'ambassade de Rome, mais s'en démit à l'arrivée du ministère Polignac. Il prévit et annonça la révolution de 1830. Il en fut acclamé. Il n'en profita point. Sincèrement attaché à l'idée, sinon aux hommes, de la branche aînée, mettant aussi une coquetterie de gentilhomme à se montrer plus fidèle dans le malheur que dans la fortune, il resta à l'écart, travaillant à ses mémoires d'outre-tombe, arrangeant surtout son attitude de vieillard glorieux, encensé, mélancolique et dédaigneux, contemplant dans une immobilité superbe l'agitation de la vie contemporaine et regardant passer à ses pieds sa dernière heure. Il vit la chute du gouvernement de Juillet qu'il n'aimait pas et l'avènement de la République qu'il n'aimait pas plus. Il s'éteignit à l'âge de 80 ans, chrétiennement, entre les bras du chef de la prière, le 4 juillet 1848. Il s'était fait concéder par sa ville natale, pour son tombeau, un quartier de rochers dans l'îlot du Grand Bé, en rade de Saint-Malo. C'est là qu'il repose, dans une sépulture dont la simplicité n'est pas sans faste. Une pierre sans nom, une croix, par derrière Saint-Malo, devant l'océan et le ciel. Là-bas, au-delà de l'horizon où le regard s'enfonce, l'Amérique. Tout autour, le bruit du flot, qui semble entretenir encore et bercer la tristesse de son âme et l'éternelle mélancolie de sa pensée.